Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Année du 1312e anniversaire de la naissance de F. Merjanov.
Environnement civilisationnel.
Pendant des siècles, les codes moraux des hominines ont été dictés par tout un ensemble de mythologies, sorties tout droit de leur imaginaire. Héritage des époques les plus reculées, la morale a été progressivement déconstruite par des générations d'hominines qui devaient auparavant s'y plier. Cela ne s'est pas fait sans heurts. Combien de personnes la morale religieuse a-t-elle condamnée à la disgrâce publique ou à l'exil ou à la mort? Les dénombrer est chose impossible. Bien souvent, afin de s'opposer à toute critique de la morale, les hominines plaident qu'elle est dictée non par les hominines, mais par une divinité supérieure qui est en charge d'ordonner l'existant. C'est ainsi parce que c'est ainsi. Avec ce raisonnement tautologique, elle n'est pas une création ni une invention, mais une règle naturelle, voire surnaturelle, un ordre des choses qui échappe de fait à toute possibilité de remise en cause. Que ce soit en se targuant de philosophie plutôt que de religiosité, la raison plutôt que la foi, la morale revêt toujours un caractère d'exception. Elle est soit divine, soit naturelle. Nabila de son époque, le célèbre influenceur Voltaire, s'explique dans une longue auto-interview. La morale n'est point la superstition. Elle n'est pas dans la cérémonie. Elle n'a rien de commun avec les dogmes. On ne peut trop répéter que tous les dogmes sont différents et que la morale est la même chez tous les hommes qui font usage de leur raison. Homme est à comprendre dans le sens de hominine. Pour lui, la morale détermine ce qui est le bien et le mal, avec majuscule. Ce qui est licite ou non dans des sociétés d'hominines. Dans toutes. Elle est un universalisme raisonné et partagé. Parmi les nombreux domaines dans lesquels la morale exerce son diktat, la sexualité a une place particulière.
Dans l'imaginaire mythologico-religieux, les trois plus célèbres des imposteurs moralisateurs sont sans conteste Moïse, Mahomet et Jésus. Si Moïse et Mahomet sont connus pour leur sexualité kinky, Jésus est resté très discret sur ses mœurs. Ses amours hétérosexuels avec la prostituée Marie-Madeleine ou homosexuels avec son disciple Jean n'ont pas donné lieu à une littérature érotique spécifique. Généralement, ses adeptes prônent l'abstinence ou restreignent les pratiques sexuelles à la reproduction. La dimension récréative de la sexualité est très largement minimisée. Après des siècles de silence coupable, des scandales à répétition entachent les autorités religieuses christiennes entre la fin du XXe et le début du XXIe siècle. Des centaines de milliers d'enfants, mâles et femelles, ont subi des abus sexuels dans plusieurs pays. Les chiffres ne cessent d'enfler et le discrédit est énorme. La sortie, quelques siècles plus tard, de « La vie sexuelle du Christ » des frères Pierre et Jacques Hull fait l'effet d'une bombe dans l'univers religieux. Après les déboires de Moïse et Mahomet avec leur propre morale, Jésus est outé pour son attirance pour les jeux érotiques BDSM. Mais, pas très au fait des anglicismes, il ne comprend pas le principe de safe word et des sept cloués sur une croix après plusieurs jours d'agonie. Dans le premier quart du quatrième millénaire, les religions moïsiennes, christiennes et mahométiennes sont en net recul chez les hominines. La sexualité est débarrassée de la morale religieuse. La liberté totale des pratiques sexuelles, dans le consentement mutuel, est la nouvelle donne morale. Alors que toutes les religions et toutes les morales ont tendu à jeter un voile sur la gesticulation fornicatoire qui est, cependant, à la base de la vie. Dorénavant, il n'y a nulle contrainte en sexualité, pour paraphraser l'adage humoristique mahométien, nulle contrainte en religion. Mais les hominines ne sont pas encore appâtés. De nouvelles mythologies et religiosités émergent ou se consolident. Loin des imaginaires violents des incestes et adultères des mythologies moïsiennes, du viol d'une jeune vierge par une divinité en chaleur pour les chrétiennes et du harem paradisiaque de 1000 vierges des mahométiennes, il est maintenant possible d'avoir une sexualité avec des reptiliens, des licornes et des tamagotchi, ou avec des êtres imaginaires. Un phénomène trop tardif à l'échelle de l'histoire des hominines pour enrayer l'apparition de textes polémiques tels que Boom, le traité de théologie d'Olivier Didier Super Audegon dans la première décennie du troisième millénaire.
Alors, ça c'est ma chanson dédicacée à tous les terroristes islamo-kamikazes. Allez les mecs, boum, quand ton corps fait boum, c'est pour avoir le droit d'enfiler 1000 vierges. Boum, ton corps va faire boum, mais quand même tu crois pas que 1000 vierges ça fait beaucoup. Surtout qu'une pucelle au bout de la mythe, c'est pas vraiment de la dynamite. La clé du paradis, c'est la maturité. Rien ne vaut une bonne célibataire de 40 ans à te paumer. Des comme ça y'en a plein, et crois-moi elles ont faim. Donc pour les obtenir, y'a pas besoin de faire boum, 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 boum.
Le siècle dans lequel F. Merdjanov a vécu est celui de la critique des rôles sociaux genrés, et plus généralement de l'artificialité de la binarité de genre. La confusion entre biologie et sociologie entretenue et acceptée depuis des siècles est doucement remise en cause. Quel lien réel entre la longueur du raffet périnéal et la capacité à prendre en charge telle ou telle activité sociale plutôt qu'une autre? Pour interroger cela, le postulat est simple. Le genre précède le sexe, pour reprendre les mots de Christine Delphi, une sociologue du XXe siècle, et non l'inverse. Ce qu'avait déjà bien compris sa grand-mère, qui lui disait « on ne naît pas femme, on le devient ». Ainsi, aussi étonnant que cela puisse paraître, la présence de menstrues régulières chez une partie des hominines, par exemple, n'est pas une prédisposition pour les tâches ménagères, pour un goût affirmé pour des couleurs plutôt que d'autres, pour des activités sociales spécifiques, etc., etc. D'ailleurs, l'arrêt définitif de ces menstrues en vieillissant ne perturbe pas les rôles genrés. Dans le prolongement des critiques des siècles précédents, au cours du XXIe, la contestation des assignations sociales genrées se fait de plus en plus forte. Pourquoi lier des différences biologiques à un ensemble de rôles sociaux, à des archétypes qui contraignent les hominines? Ironiquement nommé « wokisme » par les hominines qui s'y opposent, ce mouvement de critique des normes sociales est vaste et hétérogène. Les approches et les conclusions divergent parfois. Selon les prophéties anti-woke, un post-wokisme méga-matérialiste préconise que la différenciation sexuée et ou genrée des rôles sociaux soit remplacée par la binarité droite-gauche dans l'utilisation des membres supérieurs. Naître gaucher-gauchère suffit à se voir attribuer dès la naissance des espaces, des gestes, des attitudes et des tâches spécifiques, indépendamment du sexe biologique ou du reste de l'anatomie. Bien que ne représentant qu'environ 10% de la population, cette faction des hominines est suffisante pour remplir pleinement les tâches qui lui incombent et, minoritaire, elle ne peut constituer une opposition réelle. Ce qui est profondément injuste selon l'anti-wokisme. Les ambidextres vont se faire pourchasser et le risque évident est de voir la roussophobie se développer, une chose inadmissible. Avoir les cheveux roux et les garder n'est pas un signe ostentatoire de soutien aux ambidextres. Une évidence qui n'est pas partagée par tout le monde. Un risque de dérapage signalé dès 2010 par le lanceur d'alerte Romain Gavras dans son documentaire Born Free.
N'être rien, c'est être suspect de tout. François Augérias, Dôme ou l'essai d'occupation, cité à l'entrée état d'urgence dans F. Merdjanov, un analecte de rien.
Dans le millénaire qui suit la mort de F. Merdjanov, les approches sociétales se modifient. Deux genres sont devenus sept. Plus précisément, le sexe biologique ne détermine plus le genre social, même s'il demeure un référent. Ainsi, en plus des classiques masculin et féminin, s'ajoutent les deux genres qui expriment le passage de l'un à l'autre. Deux autres pour les genres non sexués, plus un autre qui est l'indétermination entre les deux. En ce début de quatrième millénaire, il est normal d'être femelle par le sexe biologique et masculin pour le rôle social, ou l'inverse. L'indétermination est la possibilité de vouloir totalement disjoindre la dimension biologique de l'aspect social des individualités. Il n'y a pas de volonté de visibiliser une transition, mais un état de fait. Ce qui importe est ce que l'on veut être comme personnage public, ce que l'on veut montrer de soi. S'appuyant sur cette voyelle présente dans la langue française, les nouveaux pronoms sont nécessaires pour nommer convenablement cette diversité. Il et elle désignent respectivement le mâle masculin et la femelle féminine. Al et ol sont utilisés pour les mâles féminins et les femelles masculines. Oui et oul s'emploient pour les hominines qui font le choix de se montrer masculin ou féminin sans ne rien dire de leur biologie. Qu'il y ait eu ou non modification chirurgicale du sexe. Yi est le pronom de l'indétermination volontaire. Prononcé i, il ou ji, il, ni masculin ni féminin, ni mâle ni femelle. Il est un peu l'équivalent de l'antiquiel. Paradoxalement, la multiplication des genres, toujours en rapport avec la biologie, entraîne une forme de réaffirmation du caractère central de la biologie sexuelle dans l'organisation sociale des hominines. Cette diversité des genres n'est pas une négation du genre. La disparition complète des carcans imposés aux individualités reste encore une utopie. Et l'absence de voyelles supplémentaires empêche d'imaginer d'autres possibilités, pour l'aile conservatrice. Sans faire dans la science-fiction, il est imaginable qu'une critique radicale apparaisse en réaction à cela, sans se contenter d'inventer et de proposer une nouvelle voyelle. Bien que les identités collectives soient des illusions, elles enferment. Sans doute le sens du graffiti mural, le contrat précède l'hominine, signé de quelques égoïstes.
L'un des effets indirects de ces questionnements sur le genre est une évolution du dysphormisme sexuel chez les hominines, la différence d'aspect du mâle et de la femelle d'une même espèce. Les changements de comportement genrés dans la nourriture, les activités physiques ou intellectuelles pendant plus d'un millénaire ont atténué la pression sociale sur les lois de l'évolution. La sélection naturelle œuvre autrement. Les tailles varient, les morphologies se transforment. L'année 3282 ne permet pas d'avoir le recul nécessaire pour mesurer l'étendue des modifications au niveau de l'espèce des hominines. Les conséquences sont encore inenvisageables. L'absence de discrimination va rééquilibrer des millénaires de ségrégation binaire genrée. Impossible de dire dans quel sens. Sommes-nous dans un scénario où la femelle devient plus grande? Le dysmorphisme va-t-il augmenter ou diminuer? Va-t-il rien se passer?
Massu me rappelle Ravi Shankar. On sait que les caïmans mangent leurs enfants. Et on sait que les crocos mangent leurs enfants. Tu connais les dinosaures à bec de canard? C'est quoi quelque chose qui les pince à plein hasard? Ce requin baleine ne me sert à rien. Je vais être obligé de téléphoner à la police.
Pour en finir avec les discriminations entre les hominines, l'année 3000 a été celle de l'égalité. Que de festivités. Pour ce nouveau millénaire qui débute, terminer les typologies par couleur de peau, fini le racisme. Officiellement, l'ensemble des hominines a accepté d'abolir les différenciations épidermiques. Plus de blancheur, de noirceur ou autre. Tout le monde est dorénavant de couleur grise. Des extrémistes continuent néanmoins d'affirmer que cela ne change rien, que tout ceci n'est qu'un trompe-l'œil. Dans les faits, être de couleur gris clair apporte des avantages et des statuts sociaux auxquels n'accèdent toujours pas les hominines du nuancier vers le gris foncé. L'égalité n'est encore qu'une illusion. Une ségrégation dont ont bien conscience les hominines qui en souffrent, contrairement aux autres qui relativisent. Une situation qui rappelle les millénaires passés.
Homininité décalée.
Dès la préhistoire, les hominines ont bouleversé leur environnement de par leurs activités. Les premiers feux et les industries lithiques naissantes sont les plus anciennes traces de leur impact polluant. Au fil des siècles, l'industrialisation progressive de toutes les activités n'a eu de cesse de perturber les équilibres naturels fragiles. Les scénarios les plus alarmistes imaginés vers la fin du deuxième millénaire sont devenus des réalités. Les dérèglements climatiques se sont traduits par un réchauffement global de la planète et une augmentation du niveau des océans. La fonte complète des glaces engendre une élévation théorique d'environ 80 mètres de ce niveau océanique, avec pour conséquence principale une modification importante du tracé des côtes et une infiltration des eaux salées dans les nappes phréatiques d'eau douce. De vastes zones habitées depuis des siècles deviennent inhabitables. Les îles les plus basses sont submergées et les autres s'archipélisent. Des centaines de millions d'hominines subissent cette montée des eaux et plus généralement les conséquences des dérèglements climatiques. Lieu de naissance de F. Merjanov, la ville de Nice est presque entièrement noyée sous les eaux de la Méditerranée. Seules les collines de Simiez, du Mont Boron et du Château sont encore émergées. Pour les protivophiles du futur en goguette, le village de naissance d'Albertine Autin n'est dorénavant plus qu'à quelques kilomètres de la première plage. Les régions de plaine côtière sont les plus impactées à travers le monde et les deltas des grands fleuves sont envahis par les eaux marines. En Asie, les plaines du Gange sont inondées et l'océan Indien est dorénavant au pied de l'Himalaya. En Europe, le nord des Pays-Bas et de l'Allemagne disparaissent, alors que le delta du Danube devient un long bras de mer qui joint la Serbie à la mer Noire. La mer Caspienne fait plus que doubler sa superficie en grignotant sur les plaines du sud de la Russie. La mer d'Aral, asséchée au cours du XXe siècle, est de nouveau en eau. Dans le nord-est du désert saharien se forme une mer intérieure reliée à la Méditerranée, réalisant ainsi le vieux projet colonial français d'une mer artificielle dans cette zone du Sahara.
Dans les régions du monde soumises aux marées, le retrait de la mer laisse apparaître de vastes espaces d'eau saumâtre et de marécages sur des milliers de kilomètres carrés. L'accès à l'eau douce n'est pas simple et les zones sèches sont convoitées. La défense des zones humides est une histoire passée et le nom même de Rémi Fraisse a disparu des mémoires. De très nombreuses terres sont devenues impropres à l'agriculture pour cause de trop forte salinité. Ces changements dans la géographie impliquent des adaptations dans la géographie de l'homininité. Les plus grandes concentrations d'hominines se font loin des régions maritimes et fluviales. La répartition spatiale habituelle entre les hominines des hautes sphères sociales, politiques, économiques, artistiques et intellectuelles et d'autre part les autres se restructure. Les premières s'accaparent les régions d'altitude et abandonnent les plus basses altitudes à ces autres hominines. La délimitation mentale est stricte. Au-dessus, l'air est respirable et agréable. Les sources et les rivières ne sont pas touchées par la salinité, alors qu'en dessous, la respiration est plus difficile et l'accès à l'eau potable est un tracas du quotidien. La frontière entre les deux écosystèmes n'est pas une simple ligne de démarcation. Épaisse de quelques mètres, elle est composée d'un air pollué, irrespirable, héritage direct des industries responsables du réchauffement climatique. S'y exposer durablement, c'est prendre le risque d'en mourir. Bien que nous ne pouvons pas encore en déterminer l'épaisseur précise, le consensus scientifique situe le cœur de la question à environ 1312 mètres d'altitude.
Plus on se rapproche du sol et plus l'air est respirable. Cette contrainte environnementale favorise les hominines les moins immenses et oriente les processus évolutionnistes vers une taille toujours plus petite. Plus l'éloignement des voies respiratoires par rapport au sol est grand, et plus il est nécessaire de fournir un effort supplémentaire pour y accéder. Des études récentes ont montré que la taille moyenne des hominines tend vers 1,5 m. Plus la taille est faible, et plus l'espérance de vie augmente. Par souci d'économie, toutes les nouvelles constructions intègrent maintenant cette donnée. Toutes les normes se sont alignées à la baisse. Pour améliorer ce rationnement de l'air, les hominines d'en bas ont mis en place plusieurs procédés ingénieux. Le premier d'entre eux, le plus simple, consiste à débusquer tous les bocaux, bouteilles et autres récipients abandonnés, restés fermés et vidés de leur contenant, et par conséquent plein d'air. Siphonner un seau retourné est un petit plaisir qui ne se refuse pas. Offrir une bouteille d'eau évaporée est un précieux cadeau. Le second procédé est plus compliqué à mettre en œuvre. Il nécessite un peu d'ingénierie. Il faut se doter d'un tuyau ou d'une gaine étanche, d'une longueur minimale de 1312 mètres. d'un système d'aéroportation et d'une flasque. Accrochez cette flasque à une des extrémités du tuyau, puis la reliez à un système aéroporteur permet ainsi de dépasser l'altitude de 1312 mètres et d'y respirer l'air par l'autre extrémité restée au sol. Il existe de nombreux procédés pour maintenir dans les airs ce système. De la mini-montgolfière au ballon à hélium, de l'engin volant télécommandé à la perche tendue. Cette dernière technique est souvent jugée impossible à mettre en œuvre et relève de l'utopie technologique, voire de la science-fiction. À longueur égale, il est préférable de s'installer le plus loin du sol, c'est-à-dire au plus proche de la zone inférieure de la pollution, afin de bénéficier de l'air le plus éloigné de la zone supérieure de la pollution. Il existe des méthodes individuelles, dont certaines sont collaboratives, et des méthodes collectives basées sur l'accaparement par quelques hominines des moyens d'aéroportation. Pouvoir accrocher sa conduite d'air à des aéronefs de type ballon dirigeable n'est pas une option gratuite, et les demandes de collectivisation des moyens d'aéroportation demeurent sans réponse. Les différentes tentatives de dialogue avec des animaux volants ou de création d'une espèce domestique adaptée ne se sont pas soldées par des avancées significatives. Les canidés s'avèrent inutiles pour cette tâche manifestement trop compliquée. Pour elle, l'amitié a ses limites.
Hormis les incertitudes liées à la conception, à la technologie complexe et à la mise en place de ce système d'aération de haute altitude, le principal inconvénient est qu'il n'est pas validé par les hominines des hautes altitudes. Avec la même intelligence que des hominines qui mangent à leur faim et ne comprennent pas la jalousie de celles pour qui ce n'est pas le cas, les postes 1312 mètres n'admettent pas que l'air respirable soit convoité par celles qui en manquent. Quel manque de dignité incompréhensible. Afin de lutter contre ces abus, les hominimaux 1312e ont instauré une police aérienne des flasques, plus connue sous l'acronyme PAF. Elle est chargée de détecter toute tentative d'intrusion de flasques volantes au-dessus des 1312 mètres d'altitude autorisée. Des moyens techniques considérables sont déployés pour cette mission frontalière délicate. Sarbacanes, lance-pierres, frondes et autres propulseurs. Les techniques trop coûteuses en énergie, comme le lancer de marteau, sont très peu employées. De vastes zones sont scrutées à la jumelle pour y déceler des flasques isolées ou de petits groupes. Avec acharnement, des petits ballons gonflables sont crevés, des machines volantes en tout genre sont détruites, des flasques sont brisées par les projectiles de la PAF. Sans considération pour les risques de blesser des hominines du dessous avec la chute du conduit d'air et de ceux qui le portent. Cela représente pourtant la troisième cause de mortalité, après la noyade et les maladies de peau liées à l'humidité. Sans compter la chute des projectiles. Encore faut-il le savoir. Généralement, sur cette question de l'existence ou non de ces flasques et des hominines d'un autre monde, une grande majorité fait tout pour ne pas y penser. Le reste n'y pense tout simplement pas. Yoga pour l'oubli est une institution médico-sportive réputée.
Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. Là, je revitalise mon châtaignier Bruno grâce à la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Approchez-vous de votre arbre et saluez-le. Bonjour, c'est Josiane Pichet. Enchantée de faire votre connaissance. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Si votre arbre ne vous répond pas dans un premier temps, c'est normal. C'est un arbre. Je vais beaucoup mieux.
La difficulté pour les hominines de basse altitude est de se tenir au plus loin des zones humides des plaines sans trop s'approcher des régions outre 1312 mètres. Être proche signifie prendre le risque que sa flasque soit détruite par un phénomène encore inexpliqué. Parfois, il arrive que tout retombe. Sous le nom de phénomène anti-flasque, il est décrit de très nombreux cas de dispositifs respiratoires aériens qui s'effondrent, sans raison apparente. L'histoire des siècles passés a montré à ces hominines que plus la densité est grande et la proximité courte, et plus le nombre de cas de chute est grand. Une corrélation évidente entre localisation géographique et facteur de risque. Une simple constatation scientifique qui ne dit rien des raisons. Quelques hypothèses existent néanmoins, mais elles n'ont pas grand intérêt, car cette activité respiratoire extrafrontalière n'est pas l'unique préoccupation des hominines. La plupart du temps, il faut faire sans. Car si la flasque est une part importante de cette lutte pour la survie, les flaques sont elles aussi incontournables. Des flaques d'eau. De manière générale, ce terme désigne maintenant l'eau potable sous toutes ses formes. Les eaux qui s'écoulent des hauteurs outre 1312 mètres sont potentiellement souillées lors de leur traversée de la couche de nuages de pollution. L'eau la plus saine est celle issue de sources et de rivières naissant sous cette altitude. Plus leurs lieux de naissance sont bas et moins elle charrie des toxiques. La flaque d'eau, par résurgence, est un idéal qui alimente tous les fantasmes. Un sujet récurrent de la poésie contemporaine. Au quotidien, loin du monde poétique, les hominines font au mieux, avec ce qu'il y a. Boire est une occupation vitale.
Dans cette lutte des flaques, la mobilité a un rôle primordial. Bouger pour mieux chercher. Les deux moyens de transport les plus utilisés sont la ceinture caleçon aérifère, de natation à double réservoir compensateur de Jean-Pierre Brisset, et la motocrotte autonome à impulsion fécale.
Inventée vers la fin du 19e siècle, la ceinture caleçon est un dispositif flottant qui permet de nager très facilement. D'autant plus facilement après la lecture de « La natation ou l'art de nager appris seul en moins d'une heure » publié en 1871 par Jean-Pierre Brisset. Depuis sa redécouverte au cours du 3e millénaire, la ceinture caleçon aérifère de natation à double réservoir compensateur est devenue un outil indispensable. Elle est adaptée à tous les milieux aquatiques. Elle renoue avec le lien systémique entre batraciens et hominines. Elle est l'exosquelette dont les hominines ont un besoin essentiel. Légère, il est possible de l'avoir sur soi en permanence, que l'on appartienne à l'un ou l'autre des sept genres. L'histoire d'un moyen de transport terrestre adapté est complexe à retracer. Les archives mentionnent l'existence d'un engin motorisé à deux roues dès la fin du XXe siècle qui recycle le caca. Officiellement, 3282 est l'année du 1300e anniversaire de la première motocrotte. Aspirateur à merde de chien, installé sur une moto et conduite par des hominines, cette antique version du véhicule actuel est lancée dans la ville de Paris en 1982 par le bourgmestre Jacques Chirac. Depuis cette époque lointaine, l'outil a été perfectionné et son usage détourné pour devenir un engin de transport à quatre roues dont le carburant est la merde des hominines qui l'utilisent. Petit et stable, il consomme très peu d'eau. Activité participative, le remplissage à ras-bord de ses réservoirs permet plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie. Avec, il est possible de se déplacer en terrain sec ou humide. Les versions les plus récentes sont confortables et faciles à utiliser. Plusieurs siècles avant qu'il ait lieu, la Disclave Climat prophétise ce saut technologique majeur.
La merde sera toujours infiniment plus noble et plus propre que l'argent. En général d'ailleurs, la merde n'est rien de mauvais. Jamais homme au monde n'a été autant et aussi injustement calomnié, décrié, vilipendé que la merde. Sa réhabilitation éclatante n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce que la merde ? Partie intégrante de mets que tu manges de bon appétit, joint à divers sucs corporels, c'est-à-dire une tranche de ton corps. Lesdits sucs pénètrent la dite partie intégrante, l'élèvent dans une certaine mesure jusqu'à l'organicité, en font pour ainsi dire un constituant de l'homme. La merde, c'est à moitié nous. C'est pourquoi elle ne nous a pas empêchés de prendre place parmi les dieux. La merde remplit par ailleurs des fonctions importantes dont la science d'aujourd'hui n'a jamais rêvé. Le cas échéant, l'âme elle-même peut y élire domicile. Nous devrions traiter nos excréments avec plus d'égard, au lieu de les lâcher à travers une cuvette de chiottes du haut d'un quatrième étage, par exemple, en nous en fichant pas mal de savoir s'ils ne vont pas se casser le cou en tombant. Voyons plutôt les cérémonies pieuses avec lesquelles le chat ensevelit les siens. Ladislav Klima, le grand roman.
Ces deux technologies sont particulièrement écologiques. Elles se complémentent et peuvent s'utiliser conjointement. Comme n'importe quelle bouée, la ceinture caleçon aérifère fonctionne tout aussi bien avec de l'air pollué. L'utilisation massive de ce système nautique permet ainsi d'emprisonner un peu d'air nocif. Autre tournant écologique, le véhicule terrestre du présent fonctionne sans que l'eau soit potable et recycle totalement son carburant. Zéro déchet. En un millénaire, l'ancienne technologie de la cuve et du flotteur de WC a considérablement évolué. Dorénavant, il n'y a plus de contact entre l'eau et les excréments. Un phénomène chimique amplifié par la technologie et qui est la source de ce carburant nouveau. Depuis des siècles, les hominines savent que les excréments ne font pas bon ménage avec les eaux potables. De vieux stocks d'eau en bouteilles plastiques, datant du premier quart du XXIe siècle, sont connus pour avoir un fort goût de merde, les rendant imbuvables.
Si c'est pas pété, hein ? Quelqu'un a parlé, hein ? Ça sent la merde ! Ça sent la merde ! Ça semble venir de soupe en cuir chevelu, je crois. Ou peut-être un peu plus bas. En tout cas, ça sent le caca.
Conquête spatiale.
De mémoire d'hominine, la couche irrespirable est présente depuis toujours. Personne n'a connu un hypothétique avant et personne ne sait ce qu'il y a de l'autre côté. La recherche de l'air frais au plus proche du sol et la quête d'eau potable dans les flaques occupent tout le temps disponible. Pourquoi s'intéresser à l'outre 1312 alors que la survie est au sol? Hormis pour faire de la poésie, qui a du temps à perdre avec cela?
Car rien de nous n'est important.
Néanmoins, l'exploration spatiale fascine quelques hominines. Mais avant de pouvoir répondre à la question de savoir ce qu'il y a au-dessus de la couche de pollution, si des hominines y vivent, il faut pouvoir s'y rendre. Des récits invérifiables parlent d'autres hominines, de plus grande taille, qui vivent d'air pur et d'eau fraîche. Des mythologies rapportent que des siècles auparavant, la vie des hominines était tout autre, et que l'homininité s'est scindée entre le dessus et le dessous, entre cime des privilèges et survie très terre-à-terre. Il paraît même qu'il n'y avait alors que deux ou trois genres. Cela semble appartenir au domaine de récits mythologiques fondateurs de la société d'hominines, un procédé classique d'autolégitimation, plutôt que de l'histoire réelle de l'homininité.
L'idée même d'envoyer des hominines au plus loin du sol n'est pas nouvelle. Les archives contiennent quelques mentions d'expériences et de procédés divers pour faire décoller des objets, des animaux non hominines, tels que des vaches, mais aussi des hominines. Avec, dans ce dernier cas, des efforts particuliers pour que les personnes survivent à ce vol. La technologie nécessaire pour projeter une masse aussi lourde dans les airs est plus complexe que le simple lance-pierre, même de grande taille. Des textes anciens utilisent le terme de catapulte ou de trébuchet. L'une utilisant le principe de la corde d'arc tendue et l'autre une technique de contrepoids de balancier. Deux armes utilisées pour assiéger une ville ou une forteresse lors de conflits militaires. Des objets sont envoyés pour détruire la cible ou, parfois, des cadavres porteurs d'une maladie contagieuse. Historiquement, le trébuchet succède à la catapulte entre les 12e et 15e siècles du second millénaire après J.C. Il est plus puissant et plus précis. L'utilisation certifiée d'un trébuchet pour propulser des hominines dans les airs est datée des années 1990. La machine envoie à plus de 30 mètres de haut des hominines qui le veulent dans un parc d'attractions du Royaume-Uni. La mort en 2008 de l'hominine masculin, selon les classifications sociales de cette époque, qui tombe à côté du filet de sécurité, est la dernière date connue d'un usage de ce procédé mécanique et archaïque d'exploration de l'espace.
Les visées spatiales du quatrième millénaire sont de dépasser la couche polluée et de revenir en un seul morceau, sans subir le mystérieux effet destructeur de flasque. Avec une trajectoire en cloche ou à la verticale est un débat animé dans la communauté scientifique qui fait de la recherche sur ce sujet. La question divise. L'histoire ancienne de l'exploration spatiale est une nébuleuse de personnes inconnues. Avec des approches scientifiques différentes, Robert Saint-Rose, Jean Perdrisé et Jean-Claude Ladrate, pour ne citer que les plus célèbres, tentent d'imaginer le voyage spatial dans la seconde moitié du XXe siècle. Les hominines sont à un tel niveau de technique et de technologie qu'il est sérieusement possible de l'envisager. Rien à voir avec l'imaginaire de Star Trek qui, vu maintenant de 3282, s'avère parodique et totalement décalé avec la réalité. Que d'exagération, que d'anti-rétrofuturisme, et que dire de la très drôle Star Wars. Malgré ses aspects désuets, cette série de documentaires est encore aujourd'hui, en 3282, très connue. Car depuis maintenant quelques siècles, le combat avec des faux sabres laser est un sport officiel dans plusieurs régions de la planète. Les spécialistes des premiers siècles du cinéma admettent que le scénario est peut-être l'œuvre d'une intelligence artificielle, ou au moins d'une sorte de machine basique. La platitude des dialogues plaide sérieusement en ce sens.
On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI.
Robert Saint-Rose, Jean-Pierre Drizet et Jean-Claude Ladra n'utilisent pas le même mode de propulsion pour leur projet volant. L'un imagine un moteur dont le carburant est poétique, l'autre se sert de la force centrifuge et le troisième invente un système électromagnétique par imposition des mains. Ne pas avoir leurs connaissances techniques risque de mener à l'incompréhension, d'autant que seuls les plans de la soucoupe volante centrifuge mieux wagon volant de Jean-Pierre Drizet sont accessibles. En effet, Robert Saint-Rose n'a pas laissé de plan et Jean-Claude Ladra affirme ne pas en avoir besoin.
Je n'ai pas fait de plan pour construire cet appareil. En fait, il suffisait que je me concentre le soir pour avoir mon travail du lendemain qui me venait dans la nuit sans aucun plan.
Trois approches techniques pour trois différentes expériences. La poésie d'Aimé Césaire les encourage.
Et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Aimé Césaire, Ma négritude, dans Cahier d'un retour au pays natal, 1939.
Originaire de l'île de Martinique dans les Caraïbes, à l'ouest de l'océan Atlantique, Robert Saint-Rose envisage dans le début des années 70 d'être le premier hominine noir à quitter la planète Terre pour rejoindre les étoiles. À une époque où l'ensemble des hominines ne sont pas encore de couleur grise, il est classé dans la couleur noire et donc subit le racisme. Pour qui ne sait plus ce qu'est le racisme, il suffit de rappeler que c'est l'équivalent du roussisme ou roussophobie, mais basé non pas sur la couleur des cheveux, mais sur le taux de mélanine de la peau. Cette ségrégation épidermique induit souvent que, lorsqu'il n'y a pas exclusion totale dans un domaine, la participation d'hominine mélanoderme aux sciences, à la littérature ou à toute autre activité savante sont minimisées, voire invisibilisées. La primauté est généralement attribuée à des leucodermes. Mais Robert Saint-Rose ne l'entend pas ainsi. Avec du matériel de récupération, il se lance dans la construction d'un objet volant avec l'aide de son ami Ange Rémir, connu pour être un bricoleur et un bon sculpteur de bois. Sans l'aide d'ordinateur, à partir entre autres de pièces de voiture de type Peugeot 504 et de divers matériaux, il conçoit un engin à moteur poétique en forme de pyramide à quatre faces. Sur les conseils de son ancien professeur de langue française, il comprend que l'énergie la plus puissante dont il dispose est la poésie du célèbre écrivain martiniquais Aimé Césaire. Robert Saint-Rose pense que c'est une poésie d'explosion, c'est une poésie de volcan, d'éruption. Une analyse matérialiste défendue aussi par Christian Lapoussinière, directeur dans le début des années 2000 du Centre Césarien d'études et de recherche, qui rappelle que
« Oui, la poésie est énergie ». Je ne dis pas ça pour faire beau. Césaire lui-même n'a-t-il pas utilisé cette énergie, cette force, ce moyen d'action pour infléchir dans un sens positif les conditions matérielles d'existence des Noirs.
Mais selon les calculs de Robert Saint-Rose, l'écrivain n'a pas encore produit suffisamment de matière combustible poétique pour fournir assez de carburant et assurer un aller-retour. Le voyage de Robert Saint-Rose n'est peut-être qu'un aller simple. Il sait les risques qu'il prend. En décembre 1974, Robert Saint-Rose s'installe aux commandes de son engin volant, ferme la porte et entame la lecture à voix haute d'un texte d'Aimé Césaire. Pendant plus d'une journée, mais rien ne se passe. Déçu et moqué par le petit public venu assister au décollage, il ne désespère pas. L'ironie de son surnom, Zétoile, ne l'atteint pas. dans le plus strict anonymat, loin de tout regard, il réitère son expérience quelque temps plus tard. Depuis, il est introuvable. Plus personne n'a de nouvelles de lui. Conformément à ses calculs, il semble avoir manqué de carburant pour le retour. La biographie la plus complète à ce jour est le documentaire « Étoiles » réalisé en 2018 par Gilles Elie dit Kozak.
L'histoire, c'est que je voulais faire un documentaire sur les combats de coqs et puis en faisant ce travail de recherche, je suis tombé en fait sur Hugues Saint-Rose, qui est le frère de Robert Saint-Rose, qui est donc le personnage principal du film. Et en faisant une interview avec lui, en fait, il m'emmène dans son poulailler, il me présente ses coqs qui portaient tous des noms de fusées, d'astronautes, en fait. Voilà. Et donc, moi, je me demande, mais pourquoi tous vos coqs, en fait, portent des noms comme ça, de fusées d'astronautes? Il m'a dit, mais c'est un hommage à mon frère, Robert Saint-Rose, qui aurait dû être le premier Martiniquais, le premier Français dans l'espace.
Ayant reçu une formation d'ingénieur en génie civil, Jean-Pierre Drizet est plus technicien que Robert Saint-Rose. Suivant les normes sociales et politiques ségrégationnistes en vigueur à leur époque, Jean-Pierre Drizet n'est pas noir de peau, car il n'est jamais précisé qu'il est blanc. Donc, il l'est. Né au début du XXe siècle et originaire de France métropolitaine, il s'intéresse à la mise en place de plusieurs systèmes de transport et de machinerie complexes, comme la machine à lire à résistance liquide ou la machine à écrire avec l'au-delà, par exemple. Selon les plans connus, la soucoupe volante centrifuge, mieux wagon volant, de 1972, fonctionne selon le principe physique et mécanique simple de la force centrifuge des hypoténuses des chaînes, et peut, en cas de nécessité, être utilisée comme un simple hélicoptère centrifuge. Cette soucoupe n'est pas sa seule expérience dans le domaine de l'aérospatial. Son hélicoptère à moteur humain et ses rétrofusées rotatives sont des contributions essentielles. Malgré les plans précis réalisés par Jean-Pierre Drizet, l'histoire n'a pas retenu si, oui ou non, l'expérience a été menée par d'autres. Conscient que les hominines ne sont pas la plus maligne des espèces, il veut pouvoir être utile. Pour une meilleure compréhension, il imagine un espéranto, une langue universelle qu'il dénomme « langue T » et qui a vocation à devenir la langue de communication interespèce. Jean-Pierre Drizet dit la parler couramment, sans préciser avec qui. Ses interrogations linguistiques sur le fractionnement et ses conséquences rejoignent en miroir les questionnements de Jean-Pierre Brisset sur l'origine unique et batracienne du langage des hominines. La quasi-homophonie entre Jean-Pierre Drizet et Jean-Pierre Brisset y est sans doute pour rien. Selon le musée de la ville de Digne où il habitait, où les enfants admiraient la soucoupe volante suspendue devant sa maison, Jean-Pierre Drizet mêle dans ses plans, seul document ayant été conservé, des croquis explicatifs, des formules mathématiques, des explications théoriques, linguistiques ou parfois métaphysiques. Imprimés, il les colorie, les complète, avant de les envoyer à des organismes scientifiques susceptibles d'être intéressés par ses recherches, comme la NASA, le CNRS ou l'Académie suédoise, dans l'espoir d'obtenir un prix Nobel. Mais rien. En 40 ans de recherche, il a envoyé presque 2 tonnes de papier de ses projets multiples, mais aucun n'a attiré l'attention de la communauté scientifique de l'aérospatiale.
Vous avez déjà entendu, bien sûr, parler d'ovnis, d'extraterrestres, surtout ces derniers temps avec l'affaire de Trans en Provence. Pour notre part, nous avons eu la chance de rencontrer, non pas un extraterrestre, mais un terrestre extra. Vous allez voir, cet habitant de Poitiers essaye tranquillement de construire sa petite soucoupe volante. Regardez.
Il s'en passe de belle à Germignac. Perdu dans le vignoble de la Grande Champagne, ce village assoupi aurait pu à jamais s'endormir dans les effluves du cognac. Grâce à ce curieux véhicule, pourtant, le petit bourg charentais deviendra peut-être un jour aussi fameux que Cap Kennedy, car le destin a frappé à la porte de Jean-Claude Ladra.
Jean-Claude Ladra essaye une autre méthode. Dans son petit village de Germignac, en Charente-Maritime, il fabrique patiemment un futur engin volant. De forme circulaire, la base est similaire à une coque de bateau et le dessus est fait en couche contreplaquée. De petites fenêtres laissent passer la lumière et la porte pivotante se soulève pour pouvoir entrer dans la soucoupe de Jean-Claude Ladra. Contrairement aux deux précédents, il met en place un système hybride, aquatique et spatial. Fin 1983, il fait embarquer son engin en direction du Sénégal, sur le continent africain. Ceci pour des raisons de conditions matérielles et climatiques optimales en ce lieu et à cette époque. La soucoupe flottante est mise à l'eau, direction les Caraïbes. Afin de s'envoler en direction des étoiles, Jean-Claude Ladra doit traverser l'océan Atlantique jusqu'à l'île des Bermudes, où il sera projeté vers l'espace par un rayon. Il ne laisse pas de place au hasard, il a des réserves, une canne à pêche et une carabine. Mais il a oublié l'ouvre-boîte pour les conserves, un détail qui s'avérera décisif. Quelques bacs de plantes doivent lui fournir de l'oxygène nécessaire lorsqu'il sera dans l'espace. Très rapidement, le mal de mer retourne son estomac, comme jamais auparavant. Malgré les essais préalables dans le fleuve de la Charente, la coque fuit et il faut écoper en permanence. Pendant 90 jours, Jean-Claude Ladra dérive dans l'océan, entre la côte africaine et les îles du Cap-Vert. La technologie employée ne semble pas suffire à manœuvrer en direction des îles des Bermudes. Pendant des semaines et des semaines, il expérimente bien malgré lui ce que l'historien du futur Mel Brooks décrit du calvaire des Juifs de l'espace, qui ne peuvent toucher aux commandes de leurs vaisseaux spatiaux pour cause d'interdiction lors du Shabbat du vendredi, et dérive donc dans l'espace pendant cette période. Alors que jusqu'ici, il refuse d'être secouru, à bout de force et presque sans nourriture, il est recueilli par un bateau de pêche. N'ayant pas d'argent pour la rapatrier en France, la soucoupe flottante est coulée. En juillet 1984, sous le titre « Don Quichotte des Bermudes », Jean-Claude Ladra fait paraître le récit de son expédition avortée vers les étoiles via les Bermudes. Médiatisé par la presse locale, il devient une star charentaise. Sachant être en contact mental avec une entité extraterrestre, Jean-Claude Ladra se relance dans la construction d'une seconde soucoupe volante. Sa mère affirme même qu'il est le fils d'un extraterrestre. Pour élaborer le nouvel engin, il se laisse guider par les instructions qu'il reçoit directement dans son cerveau. Le chantier se tient dans le jardin de la maison familiale de Germinac. Cette fois-ci, il pense rejoindre les Bermudes par les airs. Il se confie à l'émission télévisée Striptease en 1993, lors de laquelle il explique son nouveau projet. Il fait visiter le chantier en cours et donne quelques indications sur la technologie employée. Sa mère Suzanne le soutient totalement. Il est aussi invité dans quelques émissions télévisées nationales, où il est moqué et fait la une des émissions radiophoniques qui lui sont consacrées. Limité par ses maigres ressources financières, Jean-Claude Ladra met des années à construire son vaisseau spatial en bois. La mort de sa mère, en 1999, ne l'arrête pas dans sa tâche spatio-temporelle. Par contre, sa condamnation à plusieurs années de prison pour des attouchements sexuels sur ses nièces, dans le début des années 2000, met définitivement fin à son projet. Vers 2010, le maire de Germignac fait détruire la soucoupe abandonnée, inachevée. Après sa sortie de prison, le journaliste Jean-Charles Chapuzet réalise des entretiens avec lui et publie une biographie intitulée « Mauvais plan sur la comète » et, en 2021, édite avec le dessinateur Boris Golzio la bande dessinée « La soucoupe et le prisonnier ». Finalement, le voyage interstellaire n'aura pas lieu. En 3282, Germignac est noyé sous les eaux. Thank you.
Faute de documentation suffisante, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu'il existe une filiation directe entre ces trois précurseurs de l'exploration spatiale à la fin du deuxième millénaire et les tentatives de traverser la couche polluée en ce début de quatrième millénaire. Néanmoins, le lien est fort entre ces expériences d'un passé lointain et les recherches dans le présent, car, avec des technologies différentes, elles arrivent au même résultat, absence de décollage. Pour l'instant, il n'existe pas encore d'engin motorisé permettant aux hominines de dépasser la couche de pollution pour aller y glaner de grosses quantités d'air, les ramener et puis les stocker au niveau du sol pour un usage futur. Cette situation d'angoisse permanente de manquer est la cause de nombreux troubles psychologiques parmi la population d'hominines d'en bas.
On ne sait plus rien. On ne pense plus rien. On s'assied hébété dans un coin, à même la merde. On étouffe et on suffoque. Non pas à cause des corps amoncelés, ni à cause de la puanteur, mais à cause du sentiment brutal que tout est perdu, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faut y passer. Marek Edelman, Mémoire du ghetto de Varsovie, 1983.
Bilan futurien.
En toute logique, l'année 3282 et les précédentes ne doivent rien savoir sur F. Merjanov. Il n'en reste probablement rien, ce qui n'est pas très surprenant. Entre sa naissance en 1970 et cette année-là, il y a eu 1312 années. Autant qu'entre sa naissance et l'an 658. 1312 ans plus tard, qui se souvient de la mort du jeune roi Clovis II, le Neustrien, fils de Dagobert, lui-même célèbre pour avoir mis sa culotte à l'envers, ou de la naissance du moine évangélisateur chrétien Willy Brocht, le Northumbrien. L'un est mort fou après avoir régné de ses 4 à ses 22 ans, l'autre a propagé des idées folles pendant des décennies jusqu'à sa mort. L'un inaugure la lignée des rois fainéants, qui est littéralement celle des rois qui ne font rien, fait, néant, selon leurs détracteurs du IXe siècle. Le second aurait mieux fait de ne rien faire.
La postérité n'entendra jamais parler de vous. Vous serez gazifié et versé dans l'atmosphère. Rien ne restera de vous. Pas un nom sur un registre. Pas un souvenir dans un cerveau vivant. Vous serez annihilé dans le passé comme dans le futur. Vous n'aurez jamais existé. George Orwell, 1984.
Une polémique qui ne date pas de 3282 revient périodiquement. Comment faut-il comprendre les inscriptions que l'on retrouve à différents endroits du territoire de l'ex-France ? La mer commence ici, ne rien jeter. Alors que la plupart des hominines acceptent l'idée que la situation actuelle découle de la fonte totale des glaciers et de la montée des eaux qu'elle a induit, d'autres se montrent sceptiques. Et si cela était l'inverse ? Et si le niveau des eaux n'avait fait que descendre depuis des siècles ? Les inscriptions disséminées indiquent-elles réellement l'ancien niveau des mers ? Dans ce cas, il est nécessaire de revoir beaucoup des lois de la physique, et particulièrement celles des fluides. En effet, aucune de ces inscriptions ne sont aux mêmes altitudes, alors que l'on pense savoir que le niveau des liquides et des fluides en général s'équilibre. Il n'existe pas de mer penchée ou d'océan incliné, et tous les liquides regroupés ensemble s'uniformisent au même niveau. La question divise. D'un côté, les platistes affirment que la planète est ronde et que les eaux sont plates. De l'autre, des hominines qui rejettent cette pensée naïve. Leur argument principal est qu'il existe aussi de telles inscriptions sous le niveau actuel des mers. Une preuve flagrante que, à des époques plus anciennes, les liquides ne l'étaient pas tant que ça, que leur comportement était différent. Les lois de la physique ne sont sans doute pas invariables. Pour il, elle, al, ol, ul, oul, il, cela montre que l'esprit critique est plus qu'une nécessité.
Femme et homme du monde entier, femme et homme du monde entier. Il est grand temps d'arrêter de progrès, il est grand temps d'arrêter de progrès complètement.
Tout sur rien. Le quatrième mardi du mois à 17h, le vendredi à 9h30. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 de Ganges-Vigan.